Bienvenue à tous à ce premier numéro de Parole de Psy. Merci de nous rejoindre. Quel avenir pour la psychiatrie en Afrique? Ce sera le thème de ce podcast d'aujourd'hui, mais avant d'aborder le vif du sujet, je me permets de vous demander de bien vouloir partager cette vidéo, de bien vouloir vous abonner à toutes les plateformes sur lesquelles elle est diffusée, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur le site paroledepsy.net, www.paroledepsy.net. Et si vous en avez l'opportunité, le moyen ou la volonté, n'hésitez pas à nous aider en cliquant sur www.paypal.me/afropanorama, www.paypal.me/afropanorama. On se retrouve tout de suite. Bienvenue à tous. Ce premier numéro de Parole de Psy est entièrement dédié à un de mes aînés dans la profession. Je pense au docteur Jean-Robert Ngola. Jean-Robert Ngola a travaillé au Nouveau-Brunswick et il a été accusé d'être le patient zéro ou la personne par laquelle la COVID-19 est arrivée au Nouveau-Brunswick. Cela lui a valu un traitement inhumain, des injures racistes, alors que l'enquête a fini par montrer que le docteur Ngola n'avait rien à voir avec la situation et qu'il a plutôt été contaminé par un malade. Depuis, il a quitté le Nouveau-Brunswick, il travaille à Québec maintenant. C'est vraiment un homme qui a été peiné et nous partageons la douleur qui a été la sienne. Nous pensons à lui ce soir. Donc cette émission lui est particulièrement dédiée. Quel avenir pour la psychiatrie en Afrique? Cette question prend de l'acuité dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 qui oblige à repenser l'organisation et la dispensation de soins, aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde, aussi bien en psychiatrie que dans les autres disciplines médicales. Pour répondre à cette question, nous nous sommes largement appuyés sur les travaux et les actions, les initiatives d'un psychiatre zimbabwéen qui s'appelle Dickson Chibanda. Il a publié en 2007 une lettre dans le Lancet Psychiatrie. Cette lettre était intitulée « The Future of Psychiatry in Africa, Thinking Outside the Box ». L'avenir de la psychiatrie en Afrique, réfléchir en dehors des sentiers battus. Vous demandez alors certainement pourquoi est-ce que la parole de ce psychiatre vaut la peine d'être écouté, pourquoi est-ce que j'en parle? Aussi, vais-je commencer par tracer un petit portrait de Dickson Chibanda, ce psychiatre qui a beaucoup d'idées, qui est dans l'innovation. Qui est donc Dickson Chibanda? Dickson Chibanda est un psychiatre zimbabwéen qui a formé les grands-mères à détecter et à soigner la dépression. Il est parti de l'idée suivante, en Afrique, il y a plus de grands-mères que de psychiatres disponibles dans les communautés. Or, les grands-mères sont des personnes très très écoutées et elles sont capables de servir de régulateur dans une communauté. Et donc, Dickson Chibanda a formé ses grands-mères, elle leur a appris à poser le diagnostic de la dépression, elle leur a appris à écouter les patients déprimés, et tout cela se fait sous supervision. Ainsi, ça permet à des communautés plus ou moins isolées qui n'ont pas accès à des médecins psychiatres d'avoir un minimum de soins. Il a appelé cette forme de thérapie la thérapie sur le banc, bench therapy ou banc de l'amitié. Dans les pays comme le Zimbabwe qui compte 14 psychiatres pour 12 millions d'habitants, ou le Congo-Kinshasa qui peut au maximum en revendiquer 50 pour 83-84 millions d'habitants, et dont la grande majorité est à Kinshasa, on se rend vite compte qu'imaginer un seul instant que les psychiatres puissent répondre à la demande de soins, à toute la demande de soins dans le pays, est utopique. Il faut absolument mettre en place des solutions innovantes tenant compte des réalités locales. Alors, on va prendre 5-10 minutes pour écouter Dickson Tshibanda expliquer le sens de sa démarche. C'était au cours d'une conférence TED tenue en Louisiane aux États-Unis en 2017. Suivons et puis on revient là-dessus pour parler de ses propositions.
Un matin chaud d'août à Harare, Farai, 24 ans et mère de deux enfants, marche vers un banc dans un parc. Elle a l'air malheureuse et déprimée. Sur le banc est assise une femme de 82 ans, connue dans la communauté comme étant grand-mère Jacques. Farai tend à grand-mère Jacques une enveloppe rédigée par l'infirmière. Grand-mère Jacques invite Farai à s'asseoir. Alors qu'elle ouvre l'enveloppe, il lit. Il y a un silence d'environ 3 minutes pendant qu'elle lit. Après une longue pause, grand-mère Jacques prend une grande inspiration, regarde Farai et dit « Je suis là pour toi. Souhaites-tu partager ton histoire avec moi ?» Farai commence. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle dit « Grand-mère Jacques, je suis séropositive. Je vis avec le VIH depuis 4 ans. Mon mari m'a quitté il y a 1 an. J'ai 2 enfants qui ont moins de 5 ans. Je suis au chômage. Je peux à peine prendre soin de mes enfants. » Des larmes coulent sur son visage. En guise de réponse, grand-mère Jacques s'approche, met sa main sur Farai et dit « Farai, tu peux pleurer. Tu as enduré beaucoup de choses. Souhaites-tu partager plus avec moi ?» Farai continue. « Au cours des 3 dernières semaines, j'ai pensé de façon récurrente à me suicider en emmenant mes enfants avec moi. Je n'en peux plus. L'infirmière m'a envoyé vous voir. Il y a un échange entre les deux. Il y a un échange entre les deux qui dure environ 30 minutes. Finalement, grand-mère Jacques dit « Farai, il me semble que tu as tous les symptômes de la Kufungisisa. » Le mot Kufungisisa ouvre les vannes aux larmes. Kufungisisa est l'équivalent local de la dépression dans mon pays. Littéralement, cela signifie trop penser. L'Organisation mondiale pour la santé estime que plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression ou de ce que nous appelons Kufungisisa. L'Organisation mondiale pour la santé nous dit également que toutes les 40 secondes, une personne quelque part dans le monde se suicide car elle est malheureuse en grande partie à cause d'une dépression ou Kufungisisa. La plupart de ces morts se produisent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. En fait, l'Organisation mondiale pour la santé va jusqu'à dire que lorsqu'on considère la tranche d'âge 15-29 ans, une des principales causes de décès est le suicide. Il y a des événements plus larges qui mènent à la dépression et dans certains cas au suicide, tels que la maltraitance, les conflits, la violence, l'isolement, la solitude, la liste est sans fin. Mais une chose que nous savons, c'est que la dépression peut être traitée et le suicide évité. Dickson Chibanda, novembre 2017, conférence TED à New Orleans.
Donc, comme vous venez de l'entendre, Dickson Chibanda est très pratique, très pragmatique et il essaie de trouver des solutions en s'appuyant sur les ressources disponibles, sur les ressources locales. Alors, revenons un peu à la lettre qu'il a publiée en 2017 dans le Lancet psychiatrique. Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Il a d'abord commencé par rappeler le contexte, comme je l'ai dit plus haut. En Afrique subsaharienne, les soins psychiatriques sont très difficiles d'accès. Un chiffre montre l'ampleur du problème, c'est que le ratio psychiatre-habitant, il est de cet ordre. Il y a un psychiatre pour 1,5 million d'habitants. C'est très faible. En plus, la part des budgets africains réservés à la santé mentale est généralement de moins de 1%. Dans ce contexte, quels sont les chantiers pour promouvoir une meilleure disponibilité de soins psychiatriques en Afrique? Dickson Chibanda en a identifié 5. On va les décrire. Premier chantier, sortir de sa zone de confort. Il est urgent pour les psychiatres africains de sortir de leur zone de confort, et leur zone de confort, c'est l'hôpital psychiatrique. On note souvent un certain malaise chez des psychiatres quand il s'agit de travailler en dehors de leur service d'aliéné. Or, il est urgent aujourd'hui d'avoir ce dialogue multidisciplinaire entre la psychiatrie et les autres disciplines médicales, voire les autres disciplines non médicales. Le client vit dans une société, le client a une histoire, il a un corps. La prise en charge biopsychosociale, qui est devenue un standard en psychiatrie, ne saurait s'organiser sans un échange interdisciplinaire. On ne peut pas faire une prise en charge biopsychosociale avec des psychiatres qui restent enfermés dans une bulle. Ce chantier résonne en écho au travail que nous-mêmes avons initié à Kinshasa avec la création au sein des cliniques universitaires de Kinshasa d'une unité de psychiatrie de liaison. Deuxième chantier, défendre les droits humains des patients. Dans les régions où les droits de l'homme tout court ne sont pas toujours respectés, il tombe sous le sens que les droits de l'homme malade puissent être aussi difficilement respectés. Les malades psychiatriques sont fragilisés, stigmatisés, ils rencontrent des difficultés pour le respect de leurs droits fondamentaux. Les conditions dans lesquelles les malades sont traités, pour ne prendre que cet exemple, doivent absolument interpeller la conscience des soignants. Dans certains hôpitaux psychiatriques, les malades sont gardés dans des conditions infrahumaines. Troisième chantier, intégrer la santé mentale dans les programmes spécifiques. Ici, on pense à des programmes comme la lutte contre le HIV, le VIH-SIDA, la protection maternelle et infantile. Souvent, dans ces programmes-là, il y a des volets psychosociaux, mais les psychiatres ne sont pas associés à la conception de ces volets psychosociaux. Il est important que les psychiatres intègrent ces programmes et apportent leur expertise dans leur mise en place. Quatrième chantier, soigner les patients au sein de la communauté. Ce chantier est à mettre en parallèle avec le premier où il s'agissait de sortir de sa zone de confort. Les soins psychiatriques au sein de la communauté permettent de maintenir le lien social et font reculer la stigmatisation. Il est important que le patient garde un contact avec sa communauté. Il existe un certain nombre de données qui montrent que l'on obtient de meilleurs résultats lorsque les patients sont soignés au sein de leur communauté plutôt que lorsqu'ils sont retirés et gardés à l'hôpital psychiatrique. Pour un psychiatre en Afrique, L'hospitalisation devrait être l'exception et les soins au sein de la communauté devraient être la règle. Vu la pauvreté généralisée, il va de soi d'ailleurs que les hospitalisations ne devraient pas être privilégiées parce que souvent, les patients, les familles n'ont pas les moyens d'assumer ces hospitalisations. Cinquième chantier, utiliser les technologies digitales pour l'évaluation, le diagnostic et le suivi des patients. L'Afrique est le continent qui connaît actuellement la marge de progression la plus rapide pour les téléphones portables. En 2017, on estimait à plus d'un milliard le nombre de téléphones portables en circulation. C'est un formidable outil dont devraient s'emparer les psychiatres pour la prise en charge des patients et l'amélioration de l'accessibilité aux soins. Il est possible de développer des applications pour le suivi et l'évaluation des patients à distance avec le relais des travailleurs communautaires au niveau des soins de santé primaire. Et Dickson Chibanda conclut son papier ainsi. Pour atteindre l'avenir et continuer à être pertinent sur le terrain, le psychiatre africain devra sortir des sentiers battus en termes de prestations de services, d'utilisation de la technologie et de travail interdisciplinaire. C'est un véritable défi qui est lancé aux psychiatres africains, défi dont on a parlé avec le professeur Mampunza. Professeur Mampunza est maître de chaire de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, mais il est aussi le président de la Société africaine de santé mentale. Voici ce qu'il pense des obstacles qui empêchent une meilleure disponibilité des soins psychiatriques en Afrique et des conséquences que la pandémie de COVID-19 va avoir sur la dispensation des soins en Afrique. On l'écoute.
Oui, je veux essayer de parler des obstacles à une plus grande disponibilité des soins psychiatriques en Afrique. Ceci laisse entendre, donc, selon la question, que les soins psychiatriques ne sont pas disponibles ou sont faiblement disponibles. Il faut entendre par soins psychiatriques des soins qui sont du domaine médical par des médecins psychiatres et d'autres ressources humaines du domaine de la santé mentale. J'entends par là les infirmiers psychiatriques, les psychologues cliniciens, etc. Les obstacles sont liés donc d'abord au petit nombre de ressources humaines qualifiées pour cette santé ou pour ces problèmes psychiatriques. Combien de psychiatres existent-ils dans le pays et surtout à l'intérieur du pays? Ils sont très peu nombreux et ceci limite donc ces soins psychiatriques. Les infrastructures spécialisées, voire les services dans les hôpitaux généraux consacrés aux soins psychiatriques sont quasi inexistants ou en tout cas très rares dans les hôpitaux généraux. Les conditions de la pratique de la psychiatrie sont difficiles, avec notamment une faible accessibilité aux psychiatres, aux services. Il y a la marginalisation, voire le rejet même des malades, voire des praticiens, ce qui limite donc la fréquentation des services, même là où ils existent. Il faut dire que les soins psychiatriques sont assez coûteux et la population est pauvre, donc il n'est pas facile qu'elle accède à des soins psychiatriques de qualité. Et c'est donc des obstacles qui font que ce n'est pas pour demain. Une grande accessibilité à des soins psychiatriques. Alors, parlant des conséquences de l'épidémie, de la pandémie de la COVID-19 sur la disponibilité des soins psychiatriques en Afrique, d'abord, ces soins, nous venons de le dire, sont très peu disponibles. Et la pandémie vient aggraver cette faible disponibilité de soins psychiatriques parce que le peu de ressources qui existent, ressources humaines, ressources matérielles, financières, sont mobilisées pour faire face à cette pandémie qui devient l'urgence des urgences. Et bien sûr que cette pandémie fait que les personnes fréquentent ou utilisent de moins en moins les services de santé par crainte justement de cette pandémie ou d'être victime de la pandémie par le milieu hospitalier. Et donc, la COVID vient sur un terrain déjà pauvre, ne fait que accentuer la faible accessibilité aux soins psychiatriques dans notre milieu africain, au Congo en particulier.
Voilà, c'était le professeur Samuel Mampunza de l'Université de Kinshasa. Amis à l'écoute, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier podcast. J'espère qu'il vous a plu. Le prochain podcast sera consacré aux conséquences psychologiques de la pandémie de COVID-19. En attendant, je vous en prie, partagez cette vidéo, abonnez-vous à nos plateformes de diffusion. Il y a le site internet www.paroledepsy.net, il y a la page Facebook Parole de Psy et il y a la chaîne YouTube Afro Panorama Podcast qui va diffuser ce podcast Parole de Psy. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Sur le site www.paroledepsy.net, vous avez la possibilité de nous faire des commentaires et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Merci et prenez soin de vous. À la fois prochaine.